Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission quotidienne Info Club Sandwich. Dans le cadre de la Fête de la Science qui se déroule du 2 au 12 octobre dans les Hauts-de-France, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Marion Casati et Eva Grill, doctorantes à l'Université Picardie-Jules Verne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux doctorantes à l'université dans le laboratoire EDISAN, écologie et dynamique des systèmes anthropisés, qui se spécialise dans l'étude des changements globaux, comme le réchauffement climatique par exemple, sur les écosystèmes et les agrosystèmes. Aux côtés de l'association Ombelli Science, vous avez travaillé récemment vos travaux de thèse ensemble sous la forme d'un dialogue. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. D'abord, on va peut-être parler un peu de vos travaux de recherche respectifs. Vous étudiez donc toutes les deux l'impact du changement climatique sur le microclimat forestier, c'est ça ?
Non, ça c'est mon sujet. Voilà, ça c'est le mien. Donc moi c'est Eva Grill et je travaille en effet sur le microclimat forestier et comment le réchauffement climatique va faire évoluer ce microclimat forestier ainsi que son impact sur la biodiversité du sous-bois forestier, donc flore et faune du sol.
Et toi, du coup, Marion, sur quoi tu travailles précisément ?
Alors, du coup, moi, je travaille plutôt en écologie de l'invasion. Donc, en fait, je travaille sur les risques invasifs d'une plante qui s'appelle le rhododendron pontique. Donc, risque invasif dans les écosystèmes forestiers du domaine atlantique français. Donc, ça concerne, en fait, les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie et Bretagne.
Donc, vous êtes toutes les deux, en tout cas, sur l'écologie forestière ?
Oui, c'est ça.
Et à côté, vous avez été contactée par l'association Ombelli Science pour retravailler vos travaux de thèse sous la forme d'un dialogue à présenter sur scène, un dialogue qui expliquerait vos deux domaines de recherche respectifs. Ce dialogue, il aborde la question de l'évolution du milieu forestier du fait du changement climatique, notamment. À quel changement, vous pouvez nous expliquer, à quel changement sont soumises les forêts du fait du réchauffement ?
Alors, il y en a plusieurs, mais dans mon cas, j'étudie particulièrement le changement lié au climat, c'est-à-dire avec le réchauffement climatique. On sait qu'il va y avoir de nombreux effets, en particulier sur la sécheresse, les événements extrêmes comme les tempêtes, etc. Mais surtout, il va y avoir un réchauffement généralisé au niveau de la température moyenne globale. Et donc, dans mon sujet, on s'intéresse à la distribution des espèces, c'est-à-dire leur aire de répartition, par exemple en France. Et donc, en fait, pour savoir comment le réchauffement climatique va influencer cette distribution d'espèces, les écologues utilisent des modèles de niche, on les appelle comme ça. C'est des modèles qui intègrent les préférences de l'espèce, c'est-à-dire où elle peut survivre, par exemple dans le territoire français. Pour une plante, ça va concerner l'humidité, l'acidité du sol, la température, etc., plein de paramètres. Et en particulier pour la température, ça permet aux écologues de faire varier la température selon plusieurs scénarios avec le réchauffement climatique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on fait plus 2 degrés, plus 3 degrés, etc. Et savoir comment l'aire de répartition de l'espèce sera affectée. Mais le problème, en fait, avec ce modèle, c'est qu'ils sont en général calibrés sur des grilles de température très larges. Les plus fines des grilles, elles font au moins 1 km² de côté. Et en général, ces températures sont interpolées, calculées en fait à partir de stations météo, qui sont toujours placés en dehors de la forêt. Donc, en fait, l'effet de la forêt n'est pas pris en compte du tout. Et dans mon projet, on s'intéresse justement à ce couvert forestier parce qu'on sait, enfin, tout le monde le sait, en fait, que l'effet de la forêt, il est vraiment prégnant. Les forêts ont un effet rafraîchissant important. Et à l'ombre de la forêt, les températures maximales sont diminuées en moyenne de 4 degrés. Ça peut aller jusqu'à 15 degrés de différence avec l'extérieur. Et donc, la forêt pourrait jouer un rôle de refuge pour les espèces face au réchauffement climatique.
Vous parlez notamment d'espèces réfugiées climatiques.
Oui.
Donc ce sont des espèces qui se trouvent obligées de migrer du fait des bouleversements que connaissent leur milieu d'origine, par exemple.
Voilà. Alors quand on a un réchauffement qui va mettre l'espèce en limite de son aire de répartition, qui va aller au-delà, disons, de sa tolérance thermique, parce qu'on a tous une tolérance après laquelle on ne peut plus survivre, ces espèces, quand elles sont en limite, elles ont trois choix, en fait. Soit elles s'éteignent, parce que justement, elles n'ont pas d'autre choix, elles n'ont pas vraiment réussi à survivre. Soit elles vont s'adapter, c'est-à-dire elles vont changer leur tolérance thermique, soit elles vont migrer pour pouvoir retrouver des conditions qui leur sont plus favorables. Et en l'occurrence, la forêt permet d'avoir un effet assez rafraîchissant pour potentiellement servir de refuge pour des espèces, en particulier pour les espèces forestières, après parce qu'il faut quand même être adapté à ce milieu notamment en termes de lumière. Par exemple, des espèces de milieux ouverts ne pourront pas tolérer forcément des conditions forestières très ombragées.
Dans le dialogue, vous abordez également la question des espèces invasives, comme le rhododendron pontique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, c'est toi Marion, il me semble, qui travaille dessus, qu'est-ce que cette espèce a de particulier et pourquoi l'avoir intégrée dans ce dialogue-là?
Principalement, on l'a intégrée dans ce dialogue parce que c'est en lien avec mon sujet de thèse. Mais en fait, cette espèce est pas mal connue dans les îles britanniques où elle envahit les forêts et les landes depuis de nombreuses années maintenant. On commence juste à voir à quel point elle est problématique en France. Et l'objectif de ma thèse, c'est vraiment d'étudier ses impacts en fait en France. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'elle était présente dans un certain nombre de sous-bois forestiers. Et en fait, cette espèce, donc pour situer un petit peu, c'est un arbuste qui peut faire entre 2 et 8 mètres de haut. Donc c'est quand même assez conséquent. On le reconnaît bien à ces jolies fleurs roses que les gens apprécient beaucoup en général. Et en fait, elle pose un problème important en forêt, c'est qu'elle produit un ombrage vraiment très important qui va impacter la biodiversité du sol. En fait, l'ombrage va être tellement important qu'elle va empêcher la régénération des espèces indigènes et donc bouleverser tout l'écosystème forestier.
Donc en fait, ce qui rapproche vos deux sujets, c'est le bouleversement du milieu forestier, c'est ça?
Disons, c'est les changements globaux, parce que dans changements globaux, on intègre à la fois réchauffement climatique, changement d'usage des terres, par exemple la conversion de forêts en zone agricole ou l'inverse, et des problématiques aussi liées aux espèces invasives, ce sur quoi travaille Marion.
Et ces espèces invasives, elles sont aussi impactées par les changements globaux?
Alors oui, donc dans certains cas, en fait, même les changements globaux, dont le changement climatique, vont permettre la prolifération des espèces invasives, parce qu'elles vont avoir un environnement plus adapté.
C'est tout à fait relié, et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément découpler chacun des sujets, et que c'est important de travailler aussi ensemble, parfois pour avoir une image plus large de ce qui se passe.
Parce que cette espèce invasive va avoir aussi un impact sur les autres espèces du microclimat forestier.
Oui, en l'occurrence, oui. Après moi, c'est pas quelque chose que je prends en compte dans ma thèse parce qu'on est obligé en écologie de compartimenter un peu sur ce sur quoi on étudie, puisque on peut pas vraiment prendre en compte tout l'écosystème à la fois. C'est pourquoi, par exemple, moi dans ma thèse, j'étudie quand je parle de la biodiversité. En fait, j'étudie pas toute la biodiversité. Par exemple, je vais pas étudier les champignons, on n'a pas la compétence, etc. Alors que c'est quelque chose d'important dans l'écosystème, mais on va travailler sur la flore et sur les arthropodes du sol, en particulier sur les insectes, dont les carabes. Donc, c'est-à-dire que quand on travaille sur un écosystème, il est tellement complet, intéressant en termes de processus, d'espèces, etc., et tellement complexe, je veux dire, qu'on ne peut pas travailler sur tout à la fois. On est obligé de un peu réduire notre champ d'exploration pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe.
En revanche, dans mon cas, comme je travaille sur une espèce bien ciblée, bien particulière, je peux me permettre de regarder toutes les interactions qu'elle a avec les autres organismes présents dans l'écosystème. Donc c'est pour ça que je vais travailler à la fois sur le sol, sur la flore qu'il y a autour du rhododendron pontique, mais également sur la faune, que ce soit au niveau des micro-organismes, des arthropodes du sol également, des insectes pollinisateurs également. Et si on en a la possibilité, pourquoi pas sur la macrofaune et tout ce qui est mammifère, peut-être, si on en a l'occasion.
Eva Grill et Marion Cassetti, vous avez retravaillé donc vos travaux de thèse ensemble sous la forme d'un dialogue pour pouvoir expliquer vos recherches communes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là, dans cet exercice de médiation scientifique?
Alors, au départ, moi j'ai été séduite tout de suite par la proposition d'Ombelli Science parce que je suis vraiment très intéressée par la médiation scientifique, en termes même professionnels, parce que j'aimerais en faire un projet vraiment professionnel après ma thèse. Je m'intéresse beaucoup à la médiation en général. Et donc, j'ai tout de suite répondu présent. Et après, j'ai motivé Marion sur le sujet, qui préférait faire quelque chose à deux que toute seule, parce que c'était peut-être un peu intimidant quelque part pour nous, en tant que scientifiques, de venir s'imposer sur une scène de théâtre, parce que du coup, le contexte, c'était... Donc, ça a été annulé finalement, mais le contexte, c'était un festival de théâtre. Et donc, c'était monté sur scène pendant l'entracte pour parler de science et sur un format un peu décalé. Donc ici, nous, on avait choisi un dialogue pour pouvoir parler à deux de nos sujets et voir ce qui les rejoignait.
Donc c'était dans le cadre du festival Hangar en délire à Boissy-Frénois, événement qui a été reporté à cause de la crise sanitaire. Donc vous avez su que l'événement a été annulé avant de pouvoir produire votre dialogue, donc vous êtes encore à l'étape du scénario, en quelque sorte du script de ce dialogue-là, mais vous avez quand même déjà bien avancé dessus. Un travail de recherche, c'est assez dense. Comment est-ce que vous avez procédé pour écrire ce scénario, de quoi vous êtes parti pour l'écrire?
Dans un premier temps, en fait, on a vraiment cherché à voir ce qui rapprochait nos sujets de thèse. Donc, pour le coup, c'était la forêt. Après, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de trouver des points communs.
Au départ. Mais après, c'est vrai qu'on s'est bien... Enfin, je pense qu'on s'est bien débrouillé pour trouver un script assez ludique qui nous permettait, en une dizaine de minutes...
D'intégrer chacune nos recherches.
Il fallait trouver un angle commun, quoi.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de trouver un angle et après de le dérouler... en gardant un aspect informatique tout en restant ludique, et c'était assez l'idée était assez scénarisée, plutôt
essayer d'intéresser et d'amuser à la fois les gens, je pense.
C'est ça. On avait, pour vous dire, prévu un combat scénarisé avec moi. Du coup, j'utilisais un capteur qui ressemble un peu à une petite épée qu'on utilise sur le terrain. Voilà. Et donc, on avait prévu de faire un combat. Assez impressionnant.
Donc, le combat avec Eva dans le rôle de la forêt et puis moi-même dans le rôle de l'espèce invasive.
Voilà.
Donc, chacune représentait un peu une allégorie de vos travaux de recherche, en fait. Est-ce que ça vous a aidé, justement, de faire cet exercice-là, de retravailler vos travaux de thèse pour les réunir et également d'avoir une dimension plus médiation scientifique? Est-ce que ça vous a fait avancer dans vos recherches ou en tout cas dans votre réflexion sur vos travaux?
En tout cas, ça permet d'avoir une autre vision de ses propres travaux, peut-être de prendre un petit peu de recul sur ceci.
Oui, je suis assez d'accord. Ça permet de vraiment... parce qu'en fait, quand on est en train de faire de la science, on travaille quand même sur un domaine plus ou moins ciblé avec des spécialistes de ce domaine. Et c'est toujours utile de prendre en effet du recul, de se dire, quand on n'est pas du tout dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut finalement en retenir? Quelles sont les clés qui permettent d'entrer dans le sujet, de trouver son intérêt? Et ça, c'est vraiment utile pour pouvoir parler après à tout le monde, mais y compris en fait même à d'autres chercheurs de ce qu'on fait. C'est-à-dire trouver des angles qui permettent directement d'accrocher...
D'intéresser les gens, de leur expliquer en fait ce qu'on fait concrètement, de leur expliquer pourquoi c'est important aussi.
Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a aidé notamment pour une autre action de médiation scientifique que j'ai faite vendredi dernier à Libercourt dans un collège où j'ai parlé à des classes... de mon sujet de thèse, de mon parcours, etc. Parce que ça m'a donné déjà, ça m'a permis d'avoir fait déjà un premier travail justement de vulgarisation sur sur mon sujet. Et ça m'a permis notamment de reprendre l'angle de la petite épée avec le capteur qui a intéressé les élèves en le voyant directement. On trouve un petit peu plus de facilité à chaque fois quand on a retravaillé les choses pour pouvoir en parler plus facilement la prochaine fois.
Et même pour en parler à ses proches aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et c'est quelque chose que vous conseilleriez du coup à d'autres doctorants, doctorantes, cet exercice de médiation scientifique et de réécriture de ces travaux?
Sincèrement, oui, c'est vraiment un travail qui est très intéressant à faire.
Vous deviez présenter donc ce dialogue lors du festival Hangar en délire à Boissy-Frénois. L'événement a été reporté. Est-ce que vous pensez représenter votre dialogue au moment du report de ce festival à nouvelle date ou à d'autres événements éventuellement?
Oui, avec plaisir.
Oui, franchement, je ne sais pas si on aura d'autres occasions que ce festival, mais dans l'absolu, pourquoi pas.
Ouais, il sera peut-être reporté, donc on a déjà dit qu'on serait intéressé pour participer à nouveau si c'est toujours d'ordre d'actualité.
Et vous pensez donc vous lancer dans d'autres projets de médiation scientifique? Parce que Eva, tu parlais d'en faire peut-être un projet professionnel également.
Oui.
Vous avez des pistes?
Du coup, je vais à partir de novembre faire un contrat doctoral élargi avec Ombelli Sciences. C'est-à-dire, en fait, ça représente 32 jours sur l'année où, au lieu de travailler directement sur mon sujet de thèse, je vais faire des actions de médiation scientifique avec l'association. Et donc, on a prévu déjà pas mal de missions pour moi pendant ces 32 jours. Par exemple, de rédiger un article de vulgarisation sur la plateforme Écosciences, de faire des échanges avec des lycéens dans le cadre du réseau des PEPS, donc c'est les parcours d'études d'éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture, un dispositif de la région Hauts-de-France, ou bien encore de rédiger un projet pour réaliser une application numérique de vulgarisation scientifique, faire des journées d'accueil sur mon terrain de recherche à Mormal, sur mon terrain de recherche à la forêt de Mormal avec des scolaires, ou encore de préparer la fête de la science 2021 avec la création d'un atelier.
Et donc là, tu es à la fin de ta première année de thèse et tu comptes poursuivre dans la recherche quand même ou tu préférais vraiment prendre cette direction de la médiation scientifique ?
Bah, pour l'instant, je me laisse les deux portes ouvertes. Je serais peut-être intéressée par continuer à la recherche dans un premier temps, faisant des post-docs qui me permettront d'acquérir plus de connaissances, de plus me spécialiser en sciences. Mais au-delà de ça, je serais vraiment intéressée par le fait de faire professionnellement de la médiation scientifique. Après, c'est maintenant possible, j'ai vu ça avec l'exemple de Séverine Alvin au CNRS, de faire vraiment de la médiation scientifique une part réelle de ses activités de recherche, dans le sens où, par exemple, cette personne donc, fait une partie de recherche, mais une majorité d'activités de médiation dans le cadre de son emploi au CNRS. Donc voilà, si dans les années suivantes à venir, ce type d'emploi se développe, ça m'intéresserait bien.
Et toi, Marion, du coup ?
Oui, je rejoins vraiment Eva sur ce genre de point. Je ne suis pas particulièrement décidée sur ce que je veux faire par la suite, mais l'idée de pouvoir allier la médiation scientifique à la recherche est vraiment très intéressante.
Et donc, tu as des projets de médiation scientifique à venir ?
Alors, actuellement, je suis une formation à l'école doctorale pour mettre ma thèse en bande dessinée, en fait. Donc, avec un peu de chance, la bande dessinée en question, enfin, en tout cas la planche de bande dessinée, sera terminée pour la prochaine fête de la science. Elle aurait dû être faite pour cette fête-ci de la science, mais bon, ça a été un petit peu reporté au vu du contexte.
Et dans la bande dessinée, tu écris le script, mais tu fais aussi les planches de dessin ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe ?
C'est ça. On réalise absolument tout, donc que ce soit le scénario, donc ce qu'on appelle le storyboard en fait, et puis ensuite le dessin, la mise en couleur, la totalité.
Et tu avais une formation en dessin, peut-être en graphisme ou pas du tout ?
Alors absolument pas. À la base, je me suis vraiment lancée là-dedans un petit peu comme dans un challenge, mais ça se passe plutôt bien. On est bien encadré par nos professeurs, bien guidé, donc ça se passe plutôt bien pour l'instant, en espérant que le résultat soit à la hauteur de nos espérances.
Bah, on te recevra peut-être à nouveau dans cette émission pour parler de cette planche de bande dessinée. Merci beaucoup, Marion Cassetti et Eva Grill.
Merci.
Merci.
Je rappelle, vous êtes toutes deux doctorantes à l'université Picardie-Jules Verne et vous travaillez notamment en écologie forestière. Info Club Sandwich, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h et 18h pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien.